Chapitre 14. Le réveil. Lorsque Maggie fut endormie, Stephen, fatigué d'avoir autant ramé contre son habitude, et surtout de l'intensité de sa vie intérieure pendant cette journée, mais trop agité pour dormir, se promena de long en large sur le pont, fumant son cigare jusque vers minuit, sans remarquer l'assombrissement des eaux, s'apercevant à peine qu'il y eut des étoiles, vivant seulement dans l'avenir. À la fin, la fatigue l'emporta sur l'agitation. Il se roula dans une pièce de toile goudronnée et s'étendit sur le pont au pied de Maggie. Elle s'était endormie et avait reposé près de 6 heures, lorsque l'aurore se fit pressentir. Elle se réveilla brusquement d'un de ces songes agités qui suivent souvent un profond repos. Pendant ce rêve, il lui semblait être dans une nacelle, sur la vaste étendue des eaux, ayant Stephen à ses côtés. Dans l'obscurité croissante, lui apparut quelque chose de semblable à une étoile qui grandit, jusqu'à ce qu'elle vit que c'était la Vierge, assise dans le bateau de Saint-Orgs, qui s'approchait toujours davantage. Et ils reconnurent que la Vierge était Lucy et le batelier Philip. Non pas Philip, mais Tom, son frère, qui passa près d'eux en ramant sans les voir. Elle se leva pour lui tendre les bras et l'appeler. Mais leur propre bateau chavira par ce mouvement, et il commençait à s'enfoncer, lorsque, par une frayeur convulsive, elle crut se réveiller et se retrouver, de nouveau encore enfant, assise au crépuscule du soir, dans leur petit salon, et avec Tom, qui n'était point réellement fâché contre elle. De la sécurité de ce réveil imaginaire, elle passa à un réveil véritable, retrouvant le clapotement de l'eau contre le navire, le bruit des pas sur le pont, un ciel imposant encore parsemé d'étoiles. Elle eut un moment de complet égarement, avant que son esprit pût se débarrasser de ce réseau confus de songes. Mais bientôt, toute la terrible réalité vint l'oppresser. Stephen n'était plus à ses côtés maintenant. Elle se trouvait seule avec sa propre mémoire et sa propre frayeur. Une faute irréparable, qui avait entaché sa vie, était commise. Elle avait répandu le chagrin sur l'existence des autres, sur des vies liées à la sienne par la confiance et l'amour. Le nouveau sentiment qui s'était développé en elle dans le court espace de quelques semaines l'avait précipité dans les péchés auxquels sa nature répugnait le plus, le manque de foi et l'égoïsme. Elle avait rompu les liens qui, pour elle, donnaient du prix au devoir, et s'était placée elle-même en dehors de cette ligne sacrée, sans autre guide que le choix fantasque de sa propre passion. Et où cela devait-il la mener? Où cela l'avait-il conduite jusqu'alors? Elle disait naguère qu'elle aimerait mieux mourir que succomber à cette tentation. Elle le désirait maintenant que les conséquences d'une semblable chute précédaient la chute elle-même. Voilà donc le fruit de tant d'années d'efforts pour arriver à ce qu'il y a de mieux et de plus élevé, à ce que son âme, malgré qu'elle pût être trahie, accusée, trompée, exposée aux embûches, ne put jamais consentir à choisir volontairement le mal. Et quel choix avait-elle fait, grand Dieu? Non pas le bonheur des autres, mais la dureté et la cruauté à leur égard. Pourrait-elle jamais cesser de voir devant elle Lucy et Philip, dont elle avait anéanti la confiance et les espérances? Sa vie avec Stephen ne pourrait avoir aucune sanctification. Elle devrait pour toujours tomber et errer vaguement, entraînée par une impulsion incertaine. Car elle avait perdu son fil conducteur, celui auquel, naguère, dans ses jeunes années, ses aspirations l'avaient si fortement liée, alors qu'elle voulait renoncer à toutes les délices, avant de les connaître, avant qu'elles se trouvassent à sa portée. Philip avait eu raison de lui dire qu'elle ne savait pas ce qu'était le renoncement. Elle avait pensé que c'était une extase tranquille. Maintenant, elle le voyait face à face. Elle comprenait ce qu'est cette vraie force active et patiente qui est le régulateur et le soutien de la vie, et elle sentait les épines enfoncées pour toujours dans son front. Si elle pouvait maintenant changer cette journée fatale, qui ne saurait être effacée, contre la solitude et les longues souffrances intérieures, avec quel sentiment de repos elle se jetterait au pied de cette croix. L'aurore vint, précédée de ses teintes lumineuses, pendant que le souvenir du passé s'emparait ainsi de Maggie et lui donnait la force qui nous vient au dernier moment d'un sauvetage possible. Maggie pouvait maintenant apercevoir Stephen couché à ses pieds sur le tillac, et profondément endormie. À sa vue, l'angoisse qui la torturait se fit jour par des sanglots longtemps comprimés. La douleur la plus amère, la pensée qui faisait intérieurement entendre son cri le plus aigu, c'était le désespoir où le plongerait une séparation. Mais ce qui la domina tout à fait fut la possibilité de sa propre chute et la crainte que sa conscience, de nouveau engourdie, ne put retrouver de l'énergie avant qu'il fût trop tard. Trop tard. Il n'était que trop tard pour détruire le mal déjà fait. Trop tard pour tout, peut-être, si ce n'est pour fuir, afin d'éviter un dernier acte de bassesse, la jouissance d'un honneur arraché à ses cœurs brisés. Le soleil se levait et Maggie se redressa brusquement, avec le sentiment qu'un jour de résistance commençait pour elle. Ses cils étaient encore humides de larmes, lorsque, mettant son châle sur sa tête, elle s'assit pour voir le soleil s'élever lentement. Stephen se réveilla et, quittant sa dure couche, vint s'asseoir près d'elle. L'instinct si sûr de l'amour inquiet vit au premier coup d'œil un sujet d'alarme. Il eut l'appréhension de quelque résistance de la part de Maggie qu'il serait incapable de surmonter. Il s'avouait douloureusement qu'il l'avait privée la veille de son entière liberté. Il y avait en lui trop d'honneur inné pour ne pas sentir que si elle revenait volontairement en arrière, sa conduite à lui devait lui paraître odieuse et qu'elle aurait le droit de le lui reprocher. Mais Maggie ne pensait point ainsi. Elle avait trop la conscience de sa fatale faiblesse à elle-même, elle était trop pénétrée de cette tendresse que la nécessité de faire une blessure rend indulgente. Elle le laissa lui prendre la main quand il s'assit auprès d'elle et lui sourit, seulement avec un regard plus triste. Elle ne pouvait rien lui dire qui dût l'affliger, avant que le moment d'une séparation possible fût plus rapproché. Ils prirent ainsi leur repas du matin ensemble, se promenèrent sur le pont et reçurent du capitaine l'assurance qu'ils seraient à Matport vers les 5 heures. Ils s'entretinrent tous deux avec un cœur oppressé. Chez l'un, c'était une crainte indéfinie, avec l'espoir que les heures suivantes la dissiperaient. Chez l'autre, c'était une résolution positive qu'elle s'efforçait de fortifier silencieusement. Stephen passa la matinée à lui exprimer son inquiétude sur la fatigue et les désagréments qu'elle avait à supporter, et à faire allusion au débarquement, à leur manière différente de voyager et au repos qu'elle aurait dans la voiture, cherchant à s'assurer plus complètement que tout irait comme il l'avait combiné. Pendant longtemps, Maggie se contenta de lui répondre qu'elle avait eu une nuit de bon repos et qu'elle ne souffrait pas sur ce bâtiment. Ce n'était pas comme de se trouver en pleine mer, seulement un peu moins agréable que dans un bateau sur la flosse. Mais une résolution inébranlable, quoique cachée, se trahira toujours par les yeux. Et Stephen était de plus en plus mal à l'aise à mesure que le jour avançait, par la conviction que Maggie avait entièrement recouvré sa volonté. Bien que désirant avec ardeur parler de leur mariage, il n'osait en faire mention, pas plus que de l'endroit où il se rendrait après, ni des démarches qu'il aurait à faire pour informer son père ou d'autres de ce qui était arrivé. S'il pouvait seulement obtenir un consentement tacite. Mais chaque fois qu'il la regarde, il éprouve une plus forte crainte de cette tristesse nouvelle et calme avec laquelle elle soutient son regard. Et il demeure de plus en plus silencieux. « Nous voici en vue de Matport, » dit-il enfin. « Maintenant, chérie, » ajouta-t-il, en se retournant vers elle avec un regard suppliant, « la partie la plus difficile de votre fatigue est terminée. Dans 1 heure et demie, nous serons en chaise de poste ensemble, et comparé à ceci, cela vous paraîtra le repos. » Maggie sentit qu'il était temps de parler, qu'il serait mal plus longtemps de laisser supposer son assentiment par son silence. Elle parla de sa voix la plus basse, comme il l'avait fait, mais avec une décision formelle. « Nous n'irons pas ensemble, nous nous séparerons. » Le sang reflua au visage de Stephen. « Nous ne nous séparerons pas, » dit-il, « je mourrai plus tôt. » C'était ce qu'il avait redouté. La lutte approchait. Mais ni l'un ni l'autre n'osa dire un mot de plus avant que l'on eût descendu la chaloupe et qu'ils fussent arrivés au quai d'abordage. Il y avait là un groupe de curieux et de passagers attendant le départ du bateau à vapeur pour St. Ogg's. Maggie eut le sentiment confus que tandis qu'ils abordaient et que Steve l'entraînait à son bras, quelqu'un de ce groupe s'était avancé vers elle comme pour lui parler. Mais elle était indifférente à tout, excepté à l'épreuve qui se préparait. Un commissionnaire les conduisit vers l'hôtel de la maison de poste, et Stephen, en passant dans la cour, commanda une voiture. Maggie n'y fit pas attention. Elle lui dit seulement « Demandez qu'on nous introduise dans une chambre où nous puissions nous retirer. » Quand ils furent entrés, Maggie ne s'assit pas, et Stephen, dont la figure exprimait une détermination désespérée, était sur le point d'appeler lorsqu'elle lui dit d'une voix ferme « Je ne vous suivrai pas. Nous devons nous séparer ici. » « Maggie, dit-il en se retournant vers elle, et parlant du ton d'un homme qui sent le commencement d'une torture, avez-vous l'intention de me tuer? À quoi cela servirait-il maintenant, après tout ce qui s'est passé? » « Il ne s'est passé que trop de choses, c'est vrai, dit Maggie, plus que nous ne pourrons jamais en effacer le souvenir. Mais je n'irai pas plus loin. N'essayez pas de l'emporter de nouveau sur moi. Hier, je n'ai pas été libre de choisir. » Que pouvait-il faire? Il n'osait pas s'approcher. Il craignait de ne pouvoir contenir sa colère, qui aurait pu mettre une nouvelle barrière entre eux. Il marchait de long en large, dans une perplexité à le rendre fou. « Maggie, dit-il enfin, en s'arrêtant devant elle et lui parlant du ton d'un profond désespoir, « ayez quelque pitié. Écoutez-moi. Pardonnez-moi ce que j'ai fait hier. Je vous obéirai maintenant. Je ne ferai rien sans votre entier consentement. Mais ne détruisez pas pour toujours nos existences par une conduite follement imprudente, qui ne peut être utile à personne, qui ne peut amener que de nouveaux malheurs. Asseyez-vous, chérie, attendez. Pensez à ce que vous allez faire. Ne me traitez pas comme si vous ne pouviez vous fier à moi. » Il avait choisi la prière la plus efficace, mais l'esprit de Maggie était fixé sans retour sur sa douloureuse détermination. Elle s'était décidée à souffrir. « Nous ne devons pas attendre, » dit-elle à voix basse, mais distinctement. « Il faut nous séparer tout de suite. »« Nous ne pouvons pas nous séparer, » dit Stephen, plus impétueusement. « Je ne saurais le supporter. À quoi sert de m'infliger ce malheur? Le coup, quel qu'il ait pu être, est porté maintenant. Cela sera-t-il utile à qui que ce soit, que vous m'ayez rendu fou? Même pour vous, je ne veux entreprendre librement rien qui puisse sanctionner un passé qui n'aurait pas dû être. » dit Maggie tremblante. Ce que je vous ai dit aux Bassetts, je le sens maintenant. J'aimerais mieux être morte que de succomber à cette tentation. Il aurait mieux valu que nous nous fussions quittés alors pour toujours. Mais nous devons le faire à présent. Non, nous ne nous séparerons pas, s'écria Stephen, s'appuyant instinctivement contre la porte, oubliant tout ce qu'il avait dit quelques moments auparavant. Je ne le supporterai pas. Si vous me poussez au désespoir, je ne saurai plus ce que je ferai. » Maggie trembla. Elle comprit que la séparation ne pouvait se faire aussi soudainement. Elle devait essayer d'un appel aux meilleurs sentiments de Stephen et s'attendre à une tâche plus difficile que celle de s'échapper au moment même où elle en formait la résolution. Elle s'assit. Stephen, la surveillant avec un sombre et morne regard de désespoir, quitta la porte et s'approcha lentement. Il se plaça à côté d'elle et lui prit la main. Le cœur de Maggie battait comme celui d'un oiseau effrayé, mais les menaces qu'il avait proférées venaient à son aide et fortifiaient sa détermination. « Rappelez-vous ce que vous pensiez il y a quelques semaines, » lui dit-elle avec une vive instance. « Rappelez-vous ce que nous pensions alors tous deux, que nous nous devions à d'autres et qu'il nous fallait entièrement vaincre toute inclination qui pourrait nous faire manquer à ce devoir. » Bien que nous ayons essayé vainement de rester fidèles à nos résolutions, le tort n'en reste pas moins le même. Non, il ne reste pas le même, dit Stephen. Nous avons éprouvé qu'il nous était impossible de tenir ces résolutions. Nous avons eu la preuve que le sentiment qui nous entraîne l'un vers l'autre est trop puissant pour le surmonter, que la loi naturelle est plus forte. Nous ne pouvons éviter qu'elle ne froisse quelqu'un. Je ne pense point ainsi, Stephen. Je suis tout à fait sûr que nous avons tort. J'ai essayé de sentir comme vous maintes et maintes fois. Mais j'ai vu que si nous jugions de cette manière, il y aurait toujours une excuse pour toute tromperie et pour toute cruauté. Nous pourrions justifier ainsi la rupture des nœuds les plus sacrés qu'on puisse former sur la terre. si le passé ne peut nous lier, où se trouvera le devoir? Nous n'aurions pas d'autre loi que l'inclination du moment. Mais il y a des engagements pour lesquels la simple volonté ne suffit pas, dit Stephen, en se levant brusquement et recommençant à se promener. Qu'est-ce que la fidélité qui n'est qu'apparente? Serait-on reconnaissant pour une chose aussi vide que la constance sans amour? Maggie ne répondit pas tout de suite. Elle soutenait aussi un combat intérieur. Enfin, elle dit, avec l'expression passionnée d'une propre conviction, qui la condamnait elle-même tout autant que lui, « Cela paraît vrai d'abord, mais quand j'examine mieux, je vois que cela ne l'est pas. La fidélité et la constance ne consistent pas seulement à faire ce qui nous est le plus facile et le plus agréable. Elle signifie renoncer à tout ce qui s'oppose à la confiance que les autres mettent en nous, à tout ce qui pourrait causer de l'affliction, à ce que le cours de notre vie a rendu dépendant de nous. Si j'avais été meilleur, plus noble, ces devoirs eussent été si fortement présents à ma pensée, j'en aurais si constamment senti la puissance sur mon cœur, ainsi que cela m'arrive dans les moments où ma conscience est réveillée, que le sentiment qui leur est opposé ne se serait jamais développé en moi, comme cela est arrivé. Il eût été éteint dès le commencement. J'aurais imploré du secours par de ferventes prières, je me serais enfui comme on fuit devant un danger effrayant. Je ne trouve aucune excuse pour moi, aucune. Je n'aurais jamais pu manquer à Lucy et à Philippe, comme je l'ai fait, si je n'avais été faible, égoïste et dur, pouvant penser à leur douleur sans en éprouver moi-même une, capable de détruire toute tentation. Oh, que doit dire Lucy maintenant? Elle croyait en moi, elle me chérissait, elle était bonne pour moi. Pensez à elle. La voix de Maggie devint étouffée en prononçant ces derniers mots. « Je ne le puis, » dit Stephen, frappant du pied avec douleur. « Je ne puis m'occuper que de vous, Maggie. Vous demandez à un homme ce qui est impossible. J'ai pu penser une fois comme vous, mais je ne puis plus retourner en arrière. Et à quoi sert que vous en reparliez, si ce n'est pour me torturer? Vous ne pouvez plus leur éviter le chagrin maintenant. Vous ne pouvez que vous arracher à moi et m'ôter tout le prix de la vie. Et même si nous pouvions retourner en arrière et remplir nos engagements, si cela était possible, ce serait affreux, horrible, que de penser que vous puissiez jamais être la femme de Philippe, que vous puissiez jamais être la femme d'un homme que vous n'aimez pas. Nous avons tous deux été préservés d'une fatale méprise. » Une vive rougeur couvrit le visage de Maggie, et elle ne put parler. Stephen le vit. Il se rassit et lui prit la main, en la regardant avec une instance passionnée. « Maggie, chérie, si vous m'aimez, vous m'appartenez. Qui peut avoir sur vous autant de droits que moi? Ma vie est liée à votre amour. Il n'y a rien dans le passé qui puisse annuler les droits de l'un sur l'autre. C'est la première fois que vous et moi avons aimé de toute la force de notre âme. » Maggie, les yeux baissés, garda encore le silence quelques instants. Stephen était dans l'agitation d'une nouvelle espérance. Il allait l'emporter. Mais elle leva les yeux, et il vit un regard plein de l'angoisse du regret, mais non du consentement. « Non, pas de tout mon cœur et de toute ma pensée, Stephen, » dit-elle avec timidité et avec résolution. « Mon âme n'y a jamais acquiescé entièrement. Il y a des souvenirs, des affections, des aspirations à la bonté parfaite qui ont sur moi un si grand empire qu'ils ne m'abandonneraient pas pour longtemps. Ils reviendraient et seraient pour moi une souffrance, un remords. Je ne pourrais vivre en paix si je mettais l'ombre d'un péché volontaire entre Dieu et moi. J'ai déjà causé bien de l'affliction, je le sais, je le sens, mais je n'y ai jamais consenti de propos délibérés. Je n'ai jamais dit « Ils souffriront pour que je sois heureuse ». Je n'ai jamais eu la volonté de vous épouser. Si vous ne deviez obtenir un consentement que par le triomphe momentané de mon amour pour vous, vous ne posséderiez pas mon âme. Si je pouvais me retrouver en arrière de 2 jours, je choisirais d'être fidèle à mes calmes affections et de vivre en dehors de l'amour. » Stephen abandonna la main de Maggie, et, se levant impatiemment, il se promena dans la chambre avec une rage concentrée. « Grand Dieu ! » s'écria-t-il enfin. « Quelle misérable chose est l'amour d'une femme pour un homme ! Je pourrais commettre des crimes pour vous, et vous pouvez peser et choisir de cette manière. Mais vous ne m'aimez pas. Si vous aviez pour moi un atome du sentiment que j'ai pour vous, il vous serait impossible de songer un instant à me sacrifier. Mais il est sans importance pour vous de me priver de tout le bonheur de ma vie. » Maggie serra ses doigts convulsivement en croisant les mains sur ses genoux. Une grande terreur pesait sur elle, comme si elle voyait alternativement d'effrayantes lueurs éclairer l'endroit où elle se trouvait, puisqu'elle tendit de nouveau les mains dans une profonde obscurité. « Non, je ne vous sacrifie pas. Je ne pourrai vous sacrifier, » dit-elle, dès qu'elle put parler. « Mais je ne puis croire que ce soit un bien pour vous que je sente, que nous sentions tous les deux, être la cause d'un malheur pour d'autres. Nous ne pouvons choisir le bonheur ni pour nous ni pour personne, car nous ne pouvons dire où il se trouvera. Nous pouvons seulement décider si nous voulons nous accorder le moment présent ou si nous voulons y renoncer, afin d'obéir à la voix divine qui est en nous, afin d'être fidèles à tous les principes qui sanctifient notre vie. Je sais que cette foi est difficile. Elle m'a abandonné bien souvent, mais j'ai senti que si je la perdais pour toujours, je n'aurais aucune lumière pour me guider dans l'obscurité de ce monde. « Mais, Maggie, » dit Stephen, en se rasseyant près d'elle, « est-il possible que vous ne voyiez pas que ce qui est arrivé hier a tout changé? Quel vertige! Quelle prévention obstinée peut vous aveugler ainsi? Il est trop tard pour dire ce que nous aurions dû faire. Nous pouvons agir maintenant comme si nous fussions arrivés aux dernières limites. Notre position est changée. La conduite à tenir n'est plus ce qu'elle était auparavant. Nous devons accepter la conséquence de nos propres actions et partir de là à nouveau. Supposez que nous nous fussions mariés hier. C'est presque la même chose. L'effet sur les autres est le même. Mais la différence pour nous, ajouta Stephen amèrement, c'est que vous auriez pu reconnaître alors que vous êtes plus liés à moi qu'à d'autres. » Une vive rougeur couvrit de nouveau les joues de Maggie, qui garda le silence. Stephen s'imagina qu'il allait triompher. Il n'avait point encore pu admettre qu'il ne dût pas réussir. Il y a des possibilités qui répugnent trop à notre esprit pour que nous puissions les redouter. « Chérie, » dit-il de sa voix la plus profonde et la plus tendre, se penchant vers elle et passant son bras autour de sa taille, « vous êtes à moi aux yeux du monde. Le devoir doit partir de là, maintenant. Dans peu d'heures, vous m'appartiendrez légalement, et ceux qui avaient des droits sur vous se soumettront. Ils verront qu'il y a une force supérieure à leurs droits. » Les yeux de Maggie s'ouvrirent largement par un regard terrifié jeté à ce visage qui était près du sien. Elle se leva brusquement et, redevenant pâle, « Oh, je ne puis le faire, » dit-elle d'une voix presque agonisante. « Stephen, ne me le demandez pas. Ne me pressez pas. Je ne puis plus discuter. Je ne sais plus ce qui est sage, mais ma conscience ne m'abandonnera pas. Je vois, je sens leur affliction actuelle. C'est comme si elle était vivante à mon esprit. J'ai souffert, personne n'avait pitié de moi, et maintenant j'ai fait souffrir les autres. Cette pensée ne m'abandonnerait jamais. Elle donnerait de l'amertume à votre amour pour moi. Je tiens à Philippe d'une manière différente, c'est vrai, mais je me rappelle tout ce que nous nous sommes dit mutuellement. Je sais qu'il pensait à moi comme au dédommagement de sa vie. Il m'était donné de pouvoir rendre son sort moins pénible, et je l'ai trahi. Et Lucy, elle a été trompée, elle qui se confiait à moi plus qu'en personne au monde. Je ne puis vous épouser. Je ne puis m'emparer d'un bien qui a été arraché à leur bonheur. Ce n'est pas la nécessité du moment qui doit nous diriger dans ce que nous devons être l'un pour l'autre, car alors je me séparerai de tout ce que ma vie passée m'a rendu cher et sacré. Je ne puis recommencer une nouvelle vie et oublier celle-là. Je dois y rentrer et m'y attacher. Sinon j'éprouverai une angoisse, comme si rien n'était solide sous mes pieds. « Grand Dieu, Maggie, » dit Stephen, se levant aussi et lui saisissant le bras, « vous délirez. Comment pouvez-vous retourner là sans m'épouser? Vous ne savez pas ce qu'on dira, chérie. Vous ne comprenez rien de ce qui est réellement. Oui, je le comprends, mais ils me croiront. J'avouerai tout. Lucy me croira. Elle vous pardonnera et... Oh oui, quelque bien pourra encore résulter d'un retour à ce qui est juste. Cher, cher Stephen, laissez-moi partir. Ne m'exposez pas à des remords plus poignants. Mon âme entière n'a jamais consenti, elle ne consent pas maintenant. » Stephen se renversa sur sa chaise à moitié pétrifié par un accès de rage désespéré. Il se tut quelques instants sans la regarder, tandis qu'elle le fixait anxieusement, alarmé de ce changement soudain. Enfin, il dit, sans porter les yeux sur elle, « Partez donc, laissez-moi. Ne me torturez pas davantage, je ne puis le supporter. » Involontairement, elle se pencha vers lui et avança la main pour toucher la sienne. Mais il se recula, comme si c'était un fer brûlant, et lui répéta « Laissez-moi. » Maggie n'eut pas la conscience de prendre une décision finale lorsqu'elle quitta cette figure assombrie qui se détournait d'elle et qu'elle sortit de la chambre. Ce fut comme une action machinale qui accomplit une intention momentanément oubliée. Que lui arriva-t-il après? Il lui sembla être dans un rêve en descendant les marches d'un escalier, en traversant une cour où était une chaise de poste prête à partir, en suivant une rue, puis une autre, où une diligence était arrêtée pour recevoir les voyageurs, puis en pensant soudain que cette voiture la conduirait loin de là, peut-être près de chez elle. Elle y entra, sans avoir la force de rien demander. Chez elle, où étaient sa mère et son frère? Philippe, Lucy, le lieu de ses premiers soucis et de ses premières épreuves, c'était l'asile vers lequel tendait son esprit, le sanctuaire où reposaient ses reliques sacrées, où elle serait à l'abri de toute chute. Le souvenir de Stephen lui causait une palpitante et horrible angoisse qui, cependant, comme le font de semblables douleurs, excitait l'activité de ses autres pensées. Mais au milieu de ce pénible tumulte, ce que d'autres personnes pourraient dire et croire de sa conduite lui apparaissait à peine. L'amour, une profonde pitié et l'angoisse du remords ne laissaient point de place à d'autres terreurs. La voiture la conduisit à York, bien loin de chez elle. Mais elle ne l'apprit qu'en arrivant à minuit dans cette ancienne ville. Qu'importe, elle pouvait y coucher et partir chez elle le lendemain. Heureusement que par oubli, elle avait 2 jours avant, en revenant de faire des emplettes, gardé sa bourse sur elle. Elle possédait un billet de banque et un souverain. S'endormit-elle dans la triste chambre de la vieille auberge, sans aucun regret d'être rentrée dans la voie du sacrifice et du devoir? Les grandes luttes de la vie ne sont pas si faciles. Les grands problèmes de l'existence ne sont pas si clairs. Dans l'obscurité de cette nuit, elle voyait le visage de Stephen tourné vers elle avec une affliction passionnée et pleine de reproches. Elle vécut encore du souvenir de toutes les délices tumultueuses que lui causait sa présence, et qui avait fait de quelques heures de sa vie un doux bercement sur un courant facile, au lieu de cette souffrance actuelle résultant d'un effort énergique et résolu. L'amour auquel elle avait renoncé se présentait avec un charme cruel. Elle se sentait prête à lui ouvrir les bras. Puis il lui semblait échapper et s'évanouir, ne laissant que l'écho d'une voix profonde et vibrante qui disait « Parti, parti pour toujours ».